Nous avons donc ensemble regardé la manière dont saint Thomas montrait ce qu'était la doctrina sacra dans la question première de la Somme. Autrement dit, comment saint Thomas voyait une possibilité d'une coopération de l'intelligence et de la foi. La théologie, c'est le fruit de l'intelligence et de la foi. D'une intelligence qui se sert, du moins de la foi qui se sert d'une intelligence. Fides quaerens intellectum. Donc, une foi qui cherche à avoir une intelligence dans la mesure où elle le peut. Saint Thomas ne se pose pas la possibilité de cela, il constate. Je crois que nous devons, nous, essayer de comprendre, d'un point de vue plus critique, quelle est la possibilité, puisque saint Thomas constate, quelle est la possibilité de cette coopération de l'intelligence et de la foi. Je crois que là, nous rejoignons un problème alors qui est le problème moderne. Saint Thomas étant dans un climat de foi, dans un climat de théologien, ne s'oppose pas à la question de la possibilité pour la foi de se servir d'intelligence. Tandis que nous, nous sommes dans un climat critique, post-kantien, post-cartésien, alors nous sommes obligés de nous poser la question de la possibilité pour l'intelligence de se servir de la foi, pour la foi de se servir de l'intelligence, la possibilité de cette coopération de foi et intelligence. Mais je crois que c'est important, hein, nous sommes partis d'un fait, si vous voulez, la somme théologique de saint Thomas implique tout de suite. Première question, ce qu'est la doctrina sacra. Nous avons fait tout l'ensemble des choses pour bien comprendre ce que saint Thomas a appliqué par la théologie. Je vais me poser maintenant la question, vous voyez bien la différence, je vais me poser la question maintenant face à toute la pensée contemporaine, parce que vous savez bien que pour certains, saint Thomas, en faisant une théologie scientifique, fait le crime le plus grand qui soit, fait la chose la plus abominable qui soit, parce que il montre qu'il y a un rapport entre l'intelligence, entre la foi et l'intelligence, et que la foi peut se servir de l'intelligence d'une manière telle qu'elle produise une théologie scientifique. Or, qui dit théologie scientifique, vous voyez, dit nécessairement que l'intelligence, lorsqu'elle peut dire certains aspects, elle doit passer devant la foi. Je vais vous donner tout de suite un exemple, vous allez comprendre. Quand vous regardez le début de la somme théologique de saint Thomas, vous avez donc un ensemble de questions qui sont sur la manière dont Dieu existe. Je ne parle plus du problème de l'existé de Dieu. Là, ce serait très frappant, c'est très visible. Je dirais dans cette question 2, est-ce que l'intelligence humaine peut atteindre l'existé de Dieu? C'est très net que la foi va montrer qu'elle peut s'effacer complètement et laisser à l'intelligence toute l'initiative. Puisque la foi va montrer que l'intelligence humaine peut atteindre l'existence de Dieu. Donc là, elle s'efface. C'est très curieux, ça, c'est les lois des effacements. Parce qu'on a beaucoup de peine à comprendre ça aujourd'hui. On a beaucoup de peine à comprendre cette grande loi des effacements. Le Père s'efface pour laisser passer le Fils s'efface pour laisser passer l'Esprit Saint s'efface pour laisser passer Marie, Marie s'efface pour laisser passer l'Église. Et dans l'Église, les anciens s'effacent pour laisser passer les Benjamins. Bon, les Benjamins, ils attendent de s'effacer, qu'ils deviennent vieux. Alors à ce moment-là, ils s'effaceront. Mais c'est très curieux de voir ça, cette grande loi des effacements. Je ne dis pas de l'humilité, mais je crois que c'est la loi de l'amour, ça. Or, on retrouve quelque chose d'analogue dans la théologie scientifique de saint Thomas. Et après avoir montré ce qu'est la théologie, question 1, saint Thomas, tout de suite, question 2, nous montre l'intelligence humaine peut atteindre l'existence de Dieu. Alors c'est la foi qui laisse passer devant l'intelligence. Et dites ce que vous pouvez dire. C'était quand même très extraordinaire. C'est juste l'inverse de l'attitude du fidéisme. Dans l'attitude du fidéisme, on dit à l'intelligence, tais-toi, tu es incapable de dire les choses, hein. C'est moi qui dois les dire. Et la foi le dit. Tandis qu'au contraire, dans cette attitude que nous voyons dans la somme théologique de saint Thomas, c'est que la première chose que la foi fait, c'est de montrer ce que l'intelligence est capable de faire. C'est quand même très beau. Et quand vous regardez le contrat Gentilès, vous voyez que saint Thomas va très loin pour montrer tout ce que l'intelligence humaine est capable de dire par elle-même. On n'oserait plus dire ça aujourd'hui. Hein. Il n'y a que le Saint-Père qui ose le dire. Paul VI l'a dit. Quand Paul VI a montré que l'intelligence humaine devait dire tout cela. Alors, quand il s'agit de l'ordre, du commodo non sit à l'égard de Dieu. Comment Dieu n'est pas ce qu'on a appelé d'une mauvaise manière, mais je le dis parce que c'est comme ça qu'on dit habituellement, l'ordre des attributs divins. Vous savez qu'il vaut mieux dire l'ordre des manières d'exister de Dieu. C'est plus juste, c'est le quomodo. Les attributs ne sont pas le quomodo. Donc il vaut mieux dire, pour respecter la pensée de Dieu, parce que ça c'est la scolastique décadente qui a dit ça. Sous l'influence d'Occam, hein, comprenez bien. Donc c'est Occam qui a dit ça le premier. Alors il s'agit de comprendre qu'il faut rectifier, parce qu'il faut rectifier Occam, et comprendre l'ordre des manières d'exister de Dieu. Donc, quand il s'agit de se traiter des manières d'exister de Dieu, là encore, la foi laisse passer devant l'intelligence. Et vous allez tout de suite le comprendre. Et c'est ce qui scandalise des quantités de gens aujourd'hui. Et c'est important de comprendre ce scandale. C'est intéressant de comprendre. Quand saint Thomas traite de l'ordre des manières d'exister de Dieu, qu'est-ce que fait saint Thomas? Il parle de la simplicité, de la perfection, de la bonté, de l'infini, de l'immensité, et ainsi de suite. Hein, vous savez ça par cœur. Il faut le savoir, hein, il faut le savoir. Ça fait partie des choses qu'on doit savoir si quand même on se laisse éduquer par saint Thomas. Alors, simplicité, perfection, bonté, infini, immensité. Immutabilité, éternité, unité. Parce que je vois que vous restez en suspens, n'est-ce pas ? Immensité, immutabilité, éternité. Et unité. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 manières d'exister. Alors il y aura un petit moment de repos, et puis Saint-Thomas repartira après du côté de la vie. Donc c'est d'abord les manières d'exister, puis les manières de vivre. La manière de vivre, comment Dieu vit-il ? Alors c'est tout problème de la science, tout problème de la volonté et de l'amour. Puis après, c'est les manières dont Dieu est capable de réaliser quelque chose en dehors de lui, la puissance. Puis ensuite, la béatitude de Dieu. Bon, si je regarde l'ordre de ce Kumudo Nansit, je vois bien que cet ordre est un ordre philosophique et non pas du tout l'ordre de la révélation. Donc, une fois de plus, la foi s'efface devant l'intelligence, parce que l'intelligence, quand il s'agit de dire comment Dieu existe, la métaphysique peut le dire. Et donc, si la métaphysique peut le dire, la métaphysique doit le dire. Pour saint Thomas, c'est très net. Chaque fois que l'intelligence est capable de dire quelque chose, la foi doit laisser l'intelligence vivre. Même chez un croyant. Mais comme c'est difficile pour nous à comprendre ça, hein, parce que nous dirions, mais non, le croyant dit ça beaucoup mieux. Non, il le dit moins bien, dirait saint Thomas. J'en suis sûr. Il le dit moins bien. Oui, je vais vous donner l'exemple tout simple, parce que c'est intéressant. Le père Coppens à l'Angélique a fait le parallèle des différents attributs, des différentes manières d'exister de Dieu, avec une théologie biblique, pour essayer de comprendre comment ces attributs étaient révélés. C'est vrai, ils sont révélés, ces attributs. Ils sont tous révélés. Mais l'ordre de la révélation, donc l'ordre de la foi, n'est pas du tout cet ordre-là. L'ordre de la révélation commence par où ? La création. Donc la toute-puissance. C'est juste l'ordre inverse. Dans la somme théologique, saint Thomas aboutit au terme à la toute-puissance de Dieu. Et la révélation commence par la toute-puissance. On montre, dès le point de départ, que Dieu connaît, que Dieu vit. Et puis, ce qui est le plus étonnant, alors ça me semble très intéressant dans ce petit livre, pour montrer au point de vue théologie biblique, quand on regarde la simplicité, ça n'est dit nulle part. Dans aucun texte de l'Écriture, il nous dit que Dieu est simple. Ah, il nous est dit, soyez simples comme des colombes, mais c'est l'homme, hein, transformé par la grâce. Dans aucun texte. Alors, vous voyez, quand il veut faire le parallélisme entre l'ordre théologique de saint Thomas et l'ordre de la théologie biblique, le premier attribut, la simplicité de Dieu, il est obligé de reconnaître aucun texte. La perfection, oui, ah oui, Dieu est parfait. Ça, c'est dit. Dieu est bon, ah oui, c'est dit. Dieu est infini, oui, c'est dit, ah, d'une certaine manière. Dieu, l'immutabilité de Dieu, oui, ça, c'est dit. Non mutor. L'éternité aussi. Le seul qui n'est pas dit, c'est la simplicité. Et saint Thomas le met le premier. C'est invraisemblable, ça. Vous voyez, c'est pas tout à fait la théologie biblique. C'est la théologie scientifique. C'est très, très intéressant de voir ça, parce que là, vous saisissez ce que ça représente comme conception de l'intelligence qui coopère avec la foi. Vous commencez par la simplicité. Pourquoi ? Parce que au plan proprement intellectuel, donc au plan métaphysique, la première manière de regarder Dieu, c'est de dire que Dieu est absolument simple. Et ça, c'est vrai. C'est la manière d'exister la plus caractéristique au plan métaphysique. Pourquoi ? Parce que toutes les réalités que je constate sont composées. Toutes les réalités que je constate sont composées. Et donc, la première manière de comprendre vraiment la manière d'exister de Dieu, c'est justement de comprendre en Dieu aucune composition. Donc, il est tout à fait simple. Et vous savez bien que saint Thomas, quand il regarde la simplicité de Dieu, nous dit « Ipsum esse subsistens ». Voilà la simplicité de Dieu. Il est l'être, l'exister qui subsiste. L'ipsum esse subsistens. Et l'ipsum esse subsistens, c'est comme la conclusion par excellence du théologien à l'égard de Dieu. Dieu, c'est celui qui existe dans son qui subsiste dans son exister. L'exister de Dieu subsiste. L'ipsum esse subsistens. Alors, voyez, c'est ce que je veux vous faire comprendre, simplement au point de vue sensibilité. L'ordre des attributs divins, l'ordre des manières d'exister de Dieu, selon la théologie biblique, n'est pas du tout le même que l'ordre qui nous est donné dans la Somme. Alors, comment comprendre cette différence entre les deux? Ça, je dois en faire un parallèle. Si je ne fais pas le parallèle, je ne comprends pas. Je répète ce que dit saint Thomas sans comprendre. Et c'est important aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on va dire tout de suite. Hein. Prenez une théologie biblique sur le mystère de Dieu, c'est beaucoup mieux que de prendre l'ordre des manières d'exister de Dieu, tel que saint Thomas nous le dit, qui est très loin de la Bible. Ça pouvait se dire au Moyen-Âge, mais pas maintenant. Maintenant, on ne peut plus faire ça, c'est absolument impossible. Eh bien oui, maintenant, on peut encore le faire si on est intelligent. C'est la seule condition. Si on n'est pas intelligent, ah non, alors là, oui, tant pis. Alors, soyez uniquement au niveau de la théologie biblique. Je ne veux pas dire que la théologie biblique ne soit pas intelligente, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire, c'est qu'il y a autre chose que la théologie biblique. Il y a la théologie scientifique. Et dans la théologie scientifique, c'est la foi qui laisse passer devant l'intelligence quand l'intelligence est capable de dire quelque chose. Alors, je crois qu'on le voit tout de suite. Dès que vous voyez la première conclusion scientifique sur le mystère de Dieu, la première conclusion scientifique sur le mystère de Dieu, donc ce qui suffit à justifier une théologie scientifique, c'est de dire Dieu est l'ipsum esse subsistens. C'est extraordinaire. Là, vous saisissez tout de suite ce que c'est que la théologie scientifique. C'est la conclusion, la première conclusion. Il est l'ipsum esse subsistens. Et ça, c'est propre à la somme théologique, vous ne le trouverez jamais dans la révélation. Ça échappe à la foi. Ça n'est pas donné dans la foi. L'ipsum esse subsistens. Vous voyez, Dieu sans l'être, hein, c'est quand même bien ça. C'est en contradiction absolue, vous voyez, avec ce point de vue-là. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que ceci présuppose une métaphysique. C'est la métaphysique que la foi laisse passer devant pour dire Dieu est absolument simple. Puis ensuite, Dieu est parfait. Alors, l'ordre est scientifique. L'ordre est le propre de la sagesse. Il est scientifique. L'ordre que donne saint Thomas à l'égard de ses manières d'exister de Dieu, eh bien, cet ordre-là relève de la philosophie au service de la foi. Et la foi ne modifie pas cet ordre, la foi laisse passer l'intelligence devant. Je crois qu'il faut sentir cela. Et ça, c'est très très important. On pourrait faire la même chose du côté de la théologie morale de saint Thomas, de la prima secundae. Voir comment saint Thomas, en tant que théologien, nous donne un ordre philosophique de l'acte humain. Alors qu'il est théologien, il donne un ordre philosophique de l'acte humain. En rappelant au point de départ que la béatitude, évidemment, seul le théologien peut en parler. Mais dans la lumière de la béatitude, il donne un ordre philosophique de l'acte humain. C'est assez étonnant ces choses-là. Enfin, je crois que c'est important pour saisir le génie de saint Thomas. Vous voyez, c'est ça que je voudrais que vous compreniez. Et dans la recherche que nous faisons de théologie fondamentale, les rapports de l'intelligence et de la foi. Lorsque la foi peut seule dire quelque chose, l'intelligence se tait. Et lorsque l'intelligence est capable de le dire, l'intelligence laisse passer la foi laisse passer devant l'intelligence. Par respect vis-à-vis du vieux frère. Hein? Puisque c'est l'aîné, que voulez-vous. La foi, c'est le petit Benjamin. Puisque la grâce vient perfectionner la nature. Et donc la grâce vient nécessairement après la nature. Et la foi a le respect de l'intelligence. Ben, je trouve ça bouleversant. Et je crois qu'on est croyant que quand on va jusque-là, autrement on ne l'est pas pleinement. On n'est pas vraiment croyant. La foi a le respect de l'intelligence. Puisque l'intelligence est par où nous sommes créés à l'image de Dieu. Et la foi a le respect de l'image de Dieu qui est en nous. Puisque c'est seule l'image de Dieu qui est en nous qui est capable d'être recréée, d'être reprise. Et là, nous en avons deux signes très très nets, trois signes très nets hein, dans la somme. Les voies d'accès vis-à-vis de Dieu, l'ordre que saint Thomas donne de la manière d'exister de Dieu, et puis ce que saint Thomas donne au début de sa morale, la prima secundae. Ceci pose un problème, voyez, pour nous. Surtout dans notre monde d'aujourd'hui, parce que je vous affirme, hein, dire ça aujourd'hui, ah ça, c'est pas commode, hein, parce que vous avez 95% des théologiens d'aujourd'hui qui diraient non, c'est propre au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge très bien, parce qu'on construisait des cathédrales. Mais dans notre monde d'aujourd'hui, non, parce qu'aujourd'hui, on ne construit plus que des petites églises et des petites chapelles de secours. Alors, évidemment, on ne peut pas dire ça, c'est absolument impossible de le dire. Eh bien, je dis non, on doit le dire encore. Si on n'est pas capable de le dire, on doit dire au moins, certains l'ont dit, il doit y avoir quelque chose là derrière. On doit le dire encore. Pourquoi ? Parce que l'intelligence et la foi n'ont pas changé depuis saint Thomas. Alors il s'agit de comprendre pourquoi la foi chrétienne, la foi pleinement foi, parce que ça c'est propre à la foi chrétienne, et c'est propre à la plénitude de la foi, puisque la foi chrétienne c'est la plénitude de la foi. Comment la foi a cette espèce de, j'allais dire, de grandeur, ça c'est les mœurs de Dieu. La foi nous donne les mœurs de Dieu. Et les mœurs de Dieu, c'est toujours de laisser passer devant ce qui est avant. De laisser passer devant le plus petit. C'est extraordinaire, ça. Alors, ça doit nous aider à poser le problème. Comment la foi peut-elle laisser passer devant l'intelligence ? Comment la foi peut-elle coopérer avec l'intelligence humaine ? Alors, vous pourriez intituler ça « Possibilité d'un concours, d'une collaboration de l'intelligence avec la foi ». Vous comprenez que le problème est très aigu, hein, très très aigu. Les deux extrêmes sont faciles à comprendre. L'extrême de Luther, je prends exprès celui-là, l'extrême de Luther, l'intelligence est complètement corrompue. Si l'intelligence est complètement corrompue par le péché, inutile d'une coopération de l'intelligence et de la foi. Puisque si la foi coopère avec l'intelligence, elle coopère avec quelque chose qui est erroné. Il est bien évident que la foi, qui adhère à la vérité première, ne peut pas coopérer avec un nous, avec une intelligence corrompue. Impossible. Si l'intelligence par elle-même est corrompue et qu'elle atteint l'erreur, je ne peux pas faire un cocktail vérité-erreur. On n'a pas le droit de faire ça. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est préserver la foi de toute intrusion intellectuelle et philosophique. Pour avoir une foi pure. La position de Karl Barth. Et c'est très net, ces positions, donc actuelles, ce n'est pas du tout des choses lointaines, c'est des choses qui demeurent. Et comme le protestantisme a éclaté dans l'Église catholique, on peut dire que nous retrouvons cette position au sein même de l'Église catholique aujourd'hui. En disant qu'il faut éviter toute intrusion de l'intelligence dans la foi et essayer d'avoir une foi tout à fait pure. D'où l'exaltation de la théologie biblique. On pense qu'on peut faire une théologie biblique sans l'intervention de l'intelligence. Ce qui est une erreur. Parce que dans toute théologie biblique intervient une certaine position philosophique. Nous le verrons. Et si je l'oublie, vous me le rappellerez. Parce que dans toute théologie biblique intervient nécessairement une intervention de la philosophie. Dans toute théologie intervient le point de vue de la philosophie. Mais on voit très bien la position, ayant une foi toute pure. Mais si je suis pour cette foi toute pure, alors je dis, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de garder le silence toute ma vie. Et d'être un mystique qui vit uniquement de ma foi dans toute cette hauteur. Parce que dès que je parle, il y a l'intervention de l'intelligence. Très ennuyeux. Vous n'avez pas une langue propre à la foi. Si vous aviez une langue propre à la foi, vous auriez le droit de parler votre langue de croyant en disant ma langue de citoyen, telle ou telle nationalité, tais-toi, tu n'as rien à voir. Toi, tu es goyim, tu es païenne, tu n'as rien à voir. Moi, je suis un langage qui est un langage divin. Il n'y a pas de langue divine. Il n'y a pas de langage divin. Toute l'intelligence et toute la parole relèvent de l'intelligence. Donc, dès que je parle, il y a intervention de la foi et de l'intelligence. Dès que je parle, j'irai plus loin et nous verrons. Dès que je fais un acte de foi, il y a intervention de l'intelligence et de la foi. Donc, prétendre une foi pure, c'est un mythe. Ça n'existe pas. Ça prouve qu'on n'a pas compris que la grâce présupposait la nature. On n'a pas compris que la foi présupposait l'intelligence. Ça, c'est très important parce que vous serez devant ces positions-là. Hein. Alors, ça a l'air à première vue, mais c'est merveilleux. Vous exaltez la foi. En réalité, vous n'exaltez pas du tout la foi. Parce que ça n'existe pas une foi comme ça. Donc c'est un mythe. La foi est reçue dans l'intelligence. Et si la foi est reçue dans l'intelligence, chaque fois que je fais un acte de foi, il y a un acte d'intelligence. Et chaque fois que je parle, il y a la parole au service de mon adhésion de foi. Donc il ne peut pas y avoir une foi toute pure, impossible. Donc, position extrême d'une foi pure qui ne regarde pas l'intelligence, qui ne veut pas s'exposer à l'intelligence. Alors, on pourrait faire une instance en disant oui, l'intelligence, mais pas la philosophie. Il faut une intelligence, il faut donc une foi qui se sert de l'intelligence, ou une intelligence naturelle à la Jean-Jacques Rousseau, une intelligence brute, une intelligence la plus simple qui soit, mais surtout pas la philosophie. Hein, on voit très bien ce qu'on dira automatiquement, surtout pas la philosophie, et surtout pas la philosophie première. Parce que celle-là, elle est contaminée. Alors, qu'est-ce que vous répondriez devant cela? Vous répondriez que la philosophie, si c'est une vraie philosophie, elle n'a pas d'autre but que de me rendre intelligent, c'est-à-dire de perfectionner l'intelligence dans ce qu'il y a de plus authentique. La philosophie ne s'ajoute pas à l'intelligence. La philosophie permet à l'intelligence d'aller jusqu'au bout des exigences de l'intelligence. Ça, c'est le propre d'une philosophie réaliste. Donc une philosophie qui veut être une philosophie qui est tout simplement au service. L'habitus, comme dit saint Thomas, lexis, l'habitus, est au service de la puissance. Est au service de la puissance qu'elle vient ennoblir. Donc la philosophie est un habitus
qui vient ennoblir l'intelligence pour permettre à l'intelligence d'atteindre sa propre fin. Et donc, à ce point de vue-là, il n'y a aucune raison de rejeter la philosophie si elle permet à l'intelligence d'être plus pure. C'est-à-dire d'être une intelligence qui cherche la vérité. La philosophie est là pour permettre à l'intelligence d'aller jusqu'au bout dans sa recherche de la vérité. Et si l'intelligence est dans une intelligence qui recherche la vérité, alors elle peut être au service de la foi pour expliciter certaines données. C'est ce que nous essaierons de comprendre. Oui. Mais vous voyez bien, et j'espère que ça c'est assez facile à comprendre, vous voyez bien que dans cette opposition qu'on a de la foi à l'égard de l'intelligence, de la foi à l'égard de la philosophie, tout cela repose sur une certaine conception de la foi. Il faut donc, je crois, pour pouvoir vraiment répondre à cette interrogation, quelle est la possibilité pour la foi de se servir de l'intelligence ? Et si l'intelligence est dans une intelligence qui recherche la vérité, alors elle peut être au service de la foi pour expliciter certaines données. C'est ce que nous essaierons de comprendre. Oui. Mais vous voyez bien, et j'espère que ça c'est assez facile à comprendre, vous voyez bien que dans cette opposition qu'on a de la foi à l'égard de l'intelligence, de la foi à l'égard de la philosophie, tout cela repose sur une certaine conception de la foi. Il faut donc, je crois, pour pouvoir vraiment répondre à cette interrogation, quelle est la possibilité pour la foi de se servir de l'intelligence, de réfléchir sur ce que c'est que la foi. Oui, c'est pour ça que nous allons maintenant regarder certains aspects du mystère de la foi. Pas le traité entièrement de la foi, hein, non, on n'aura pas le temps. Mais certaines questions de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi ? Et comment comprendre que la foi peut se servir de l'intelligence humaine ? Peut se servir de la philosophie ? Et comment, pouvant se servir de la philosophie, elle doit se servir de la philosophie ? Pas tout le temps, c'est bien évident. Quand vous faites oraison, non. Autrement dit, il faudra préciser deux développements de la foi. Un développement mystique et un développement acquis. À partir de la foi va naître deux sagesses. Une sagesse mystique et une sagesse acquise. À partir de la foi. Et comment la foi peut contenir en elle-même ce double développement ? Et pour ça, il faut savoir ce que c'est que la foi. Et c'est important de comprendre ça. Alors que dans cette perspective-là, la foi ne contient qu'un seul développement, si la foi s'oppose à l'intelligence, qu'un seul développement, un développement mystique. Donc il s'agit maintenant, si vous voulez, c'est pour que vous compreniez bien le raisonnement que nous faisons. Nous sommes à réfléchir sur une théologie fondamentale. C'est-à-dire les rapports de la foi et de l'intelligence. Alors, nous avons vu, parce que c'est intéressant de voir cela, nous avons vu comment saint Thomas a montré, lui, tout simplement, comment l'intelligence pouvait être au service de la foi. Nous nous trouvons aujourd'hui devant des problèmes beaucoup plus complexes, puisqu'il y a des refus, à partir de Luther, à partir de Kant. Et puis, nous devons nous poser la question, quelles sont les conditions pour qu'une philosophie puisse être au service de la foi ? Ça aussi, nous devons nous poser la question. Nous n'avons pas le droit de dire que n'importe quoi peut être au service de la foi. Il s'agit de comprendre. Est-ce que n'importe quelle philosophie peut être au service de la foi? Une philosophie qui est une idéologie peut-elle être au service de la foi? Je dirais non, parce qu'elle ne recherche pas la vérité. Si une philosophie ne recherche pas la vérité, elle n'est que l'intelligence n'est plus dans son ordre naturel, puisque l'intelligence est faite pour la vérité. Et donc elle oriente l'intelligence vers quelque chose qui n'est plus sa finalité. Et donc elle dévoie l'intelligence. Et une intelligence dévoyée ne peut plus être au service de la foi. Une intelligence qui est porteuse d'erreurs ne peut plus être au service de la foi, parce qu'elle alourdirait la foi. Donc c'est toutes ces questions-là, vous voyez, qui sont sous-jacentes et qu'il s'agit d'essayer de comprendre. Puisque c'est pourquoi ne pas faire aujourd'hui une philosophie avec la philosophie hegélienne? C'est la grosse question, ça. Vous voulez être à l'ordre du jour? Vous voulez parler le langage des intellectuels d'aujourd'hui? Je ne dis pas du bon peuple chrétien, parce que heureusement qu'il n'est pas encore trop avec le langage hegélien, n'est-ce pas? Mais si vous voulez parler le langage des théologiens d'aujourd'hui, vous voulez vraiment présenter votre marchandise et qu'elle soit acceptée, il faut qu'il y ait le sceau hegélien. Alors à ce moment-là, ce sera très très bien. Faites une nouvelle théologie à base de la philosophie hegélienne, sera parfait. Est-ce que je peux faire ça si je suis croyant? Est-ce que je peux faire une nouvelle philosophie à base du marxisme, à base de Nietzsche, à base de Freud? Est-ce que je peux le faire? Pourquoi je ne puis pas le faire? Je dois le savoir. C'est pas uniquement parce que jusque-là on l'a jamais fait. Alors, c'est d'être traditionnaliste dans le sens bête. Il faut être traditionnaliste dans le sens intelligent. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans la tradition, des choses qui sont bonnes et qu'il faut... La tradition implique un progrès. Alors, le progrès, c'est peut-être cela, après tout. D'Aristote à Hegel. Hein, et notre nouvel Aristote, c'est Hegel. Donc, soyons hegéliens. Et faisons une théologie à base hegélienne. Mais si vous faites une théologie à base hegélienne, vous ne serez plus croyant. Au bout d'un certain temps, vous ne serez plus croyant. Il faut savoir pourquoi. Comment, de fait, en faisant une théologie à base hegélienne, c'est-à-dire en me servant de l'hegélianisme comme philosophie pour expliciter ma foi, je vais, de fait, faire disparaître ma foi. Et ça, c'est très important, parce qu'il faut avoir un regard très simple et très sain là-dessus, et très ouvert en même temps. Il ne s'agit pas d'être fermé, il s'agit d'être ouvert par rapport à tous les progrès possibles, mais en même temps, être farouchement déterminé vers la finalité propre de la recherche de la vérité. Alors, c'est pour ça qu'il est nécessaire, je crois, avant d'aller plus loin et de répondre à ces diverses questions, parce que ce sont ces questions-là qu'il faut se répondre, il faut regarder qu'est-ce que c'est que la foi. Alors, je vous renvoie, parce que là encore, la meilleure étude pour nous, c'est de regarder saint Thomas, n'est-ce pas? C'est toujours ça de gagner, pour ceux qui veulent lire saint Thomas. Alors, nous allons regarder ce que dit saint Thomas à propos de la foi. Oui? Oui, il y a toujours une philosophie derrière, à propos de la théologie biblique. Oui, à propos de la théologie biblique. Je ne veux pas traiter la question maintenant, mais à propos de la théologie biblique, j'ai dit qu'il y a toujours une philosophie derrière. Pourquoi? Parce que la foi comme telle, nous le verrons, est une simple adhésion. Or, qui dit théologie biblique dit un ordre. Il y a un ordre, et ceci, c'est l'intervention de l'intelligence, qui vient ordonner les différents événements qui nous sont donnés. Vous voyez? Je donne une explicitation de ces différents événements. Pourquoi 11 premiers chapitres de la Genèse? Pourquoi l'histoire à partir d'Abraham? Et ainsi de suite. voyez, je cherche quand même une signification à l'égard d'un certain devenir. Et je cherche un ordre dans ce devenir. C'est bien ça la théologie biblique. Il y a une histoire. Dieu a voulu nous révéler son mystère à travers une histoire. Pourquoi ? Pourquoi Dieu a voulu révéler son mystère à travers une histoire ? Il aurait pu très bien uniquement révéler son mystère à travers un cours de théologie. Venez. Et Jésus aurait pu très bien uniquement être un maître et puis donner une leçon de théologie comme il l'a donné à Nicodème, c'est tout. Non, il a voulu que ça traverse une histoire. C'est ça que donne la théologie biblique. La signification de ce développement de la parole de Dieu, de la révélation, à travers une histoire. L'histoire du peuple d'Israël. Alors pourquoi ça? Qu'est-ce que ça représente? Un ordre, vous voyez, que donne la théologie biblique. Une vraie théologie biblique doit pouvoir donner la signification de cet ordre, autant qu'on le peut, de cette économie divine. Vous voyez, le sens de l'économie divine. Alors, je vais donc avec vous traiter quelques questions, je dis bien quelques questions, pas tout, de ce que représente la foi telle que saint Thomas nous la présente. Et vous verrez tout de suite, j'espère, comment la foi telle que saint Thomas nous la présente, qui rejoint toute la grande tradition et l'enseignement de l'Église sur la foi, eh bien, cette foi nous montre la possibilité d'une théologie, la possibilité d'assumer la pensée philosophique. Alors, je prends donc Secunda Secundae, l'article sur la question sur la foi. En ce qui concerne les vertus théologales, il y a à considérer la foi, l'espérance et la charité. Mais par rapport à la foi, une quadruple série de considérations se présente. La première est sur la foi elle-même. La seconde, sur les dons d'intelligence et de science qui se rattachent à elle. La troisième, sur les vices opposés. La quatrième, sur les préceptes intérieurs à cette vertu. Donc vous voyez, ce qui nous intéresse, c'est uniquement la foi en elle-même. Pour ce qui concerne la foi en elle-même, il y aura à considérer son objet, son acte, l'habitus même de la foi. Sur le premier point, 10 questions, c'est-à-dire l'objet de la foi. Ça, c'est très intéressant de voir. Voyez toujours, hein, pensez aux vitraux de Chartres. La question est une unité, et alors à l'intérieur de la question, vous voyez tous les petits sujets. Il faut regarder d'un seul regard la question. Alors, 10 articles, c'est quand même pas mal, hein. Il y a donc, premièrement, l'objet de la foi, est-ce la vérité première? Ça, c'est très important. Est-ce quelque chose de complexe ou d'incomplexe? C'est-à-dire une réalité ou un énoncé. Peut-il y avoir du faux dans la foi? L'objet de la foi peut-il être une chose vue? Peut-il être une chose sue? Les vérités à croire doivent-elles être distribuées en des articles? Est-ce qu'on retrouve dans la foi les mêmes articles en tous les temps? Du nombre de ces articles, de la manière de les transmettre en symboles, à qui appartient-il de constituer le symbole de la foi? Ce dernier article est très intéressant par rapport à certaines positions des intégristes d'aujourd'hui. Et vous verrez que saint Thomas va très loin à l'égard de l'autorité du souverain pontife. C'est très intéressant, ça. Parce que ça montre bien combien le mystère de l'ordre,
voyez, de l'ordre, de l'organisation du traité de la foi et des différents relais de l'autorité du magistère. Si on a le temps, on fera un petit coup d'œil, ça vaut la peine dans le climat d'aujourd'hui. Alors, premier article, l'objet de la foi est-il la vérité première? C'est évidemment les deux premiers articles qui nous intéressent le plus, hein, vous voyez tout de suite. C'est les deux premiers articles. C'est-à-dire, l'objet de la foi et la structure de la foi. Une fois qu'on a compris ça, on peut tout de suite comprendre. Alors, l'objet de la foi. Denis assure que la foi se tient dans la simple et toujours existante vérité. C'est bien là la vérité première. L'objet de la foi, c'est donc bien elle-même, la vérité première. Donc voyez la parole de Denis. C'est uniquement là, saint Thomas, qui s'appuie sur le fait de la tradition. Denis, en disant que la foi se tient dans la simple et toujours existante vérité. C'est beau du reste comme texte, hein. Ce sont les textes de Denis. Fides, circla, simplicem et semper existentem veritatem. La foi se tient toujours dans la vérité absolument simple. Or cette vérité absolument simple ne peut être que la vérité première. Alors voici le corps de l'article. En tout habitus fait pour la connaissance, donc de tout habitus, il faut considérer deux choses. Il y a ce qui matériellement est connu, qui est comme le côté matériel de l'objet. Et il y a ce par quoi l'objet est connu, qui est la raison formelle. Ainsi, dans la science de la géométrie, ce qui est matériellement su, ce sont les conclusions. Mais la raison formelle du savoir, ce sont les moyens de démonstration par lesquels sont connues les conclusions. Ça, c'est très très important. Ce qu'on a appelé l'objet matériel et l'objet formel. Alors, il faut bien comprendre ça. Et saint Thomas part de tout habitus. Et on comprend très bien pourquoi il part de l'habitus. Il part pas de l'intelligence, il part de l'habitus. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'habitus de foi. Donc l'habitus qui vient perfectionner l'intelligence, dans tout habitus de connaissance qui vient perfectionner l'intelligence, nous pouvons regarder deux choses. Ce qui est connu matériellement et ce par quoi on le connaît. Le quod et le quo. Ce qui est connu, ce qu'on appelle le quad. Ça, il faut le savoir, c'est des petits termes scolastiques qui sont mignons. Tu vois. Alors, il faut le quad et le quo. Il y a des frères qui sont quad et des frères qui sont quo. Vous voyez tout de suite les deux catégories par lesquelles. Il y en a ceux qui conduisent vers, et il y en a ceux qui arrêtent. Alors, le quad. Gare terminale, quad. On ne va pas plus loin, terminus. C'est ça, le quad. Hein. Vous allez là, jusqu'au bout. Quo, ce par quoi on connaît. Je me souviens quand j'étais nommé à Fribourg, le père d'eau m'a dit, ah c'est très bien, Fribourg est un quo, tandis que Rome c'est un quad. Au point de vue intellectuel, il vaut mieux quo. Pas au point de vue de la foi, c'est très joli ça. Et c'est vrai, c'est très vrai, le quo et le quad. Le quo, c'est ce par quoi. Et au point de vue intelligent, c'est ça qui est intéressant. Le quoi, vous voyez, alors saint Thomas dit tout simplement, ainsi, dans la science de la géométrie, ce qui est matériellement su, ce sont les conclusions. Enfin, les conclusions, c'est très très important pour l'examen. Les bêtes à examen, les conclusions, ils savent ça par cœur. Mais le quo, ah, ça c'est pour l'intelligence. Oui, c'est pour l'intelligence. Quelquefois, on peut oublier la conclusion, mais c'est le cours. Alors on peut retrouver. Si vous savez le cours, on peut tout retrouver. Mais si vous savez que le quad, vous oubliez le cours. Vous dites, ah oui, c'est comme ça, mais je ne sais plus pourquoi. Oui. Alors à ce moment-là, vous restez fixé sur une conclusion, c'est le quad. C'est ça qu'il a dit. Mais pourquoi? Ah, je ne sais pas. Oui. Alors vous savez matériellement, vous connaissez la chose, mais vous savez matériellement. Eh bien, il en est de même dans la foi.